Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Marc, chapitre 2, verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé ? De dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te l'ordonne, » dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Nous avons ici un récit merveilleux. Jésus, quand je pense qu'il était sur la terre, ceux qui sont allés en Israël et qui sont croyants ont le cœur qui bat quand ils vont là-bas. Parce qu'il y a des endroits où on est sûr que Jésus a passé par là. Jésus, c'est pas un mythe. C'est quelqu'un qui a existé, qui est venu sur cette terre, qui a manifesté Dieu. Parce qu'autrement, Dieu, vous savez, on ne peut pas le connaître. On dit Dieu, qu'est-ce qu'il est, oui. Comme disait le savant Einstein, il disait, avec mes calculs, je peux prouver l'existence de Dieu, mais je ne peux pas le connaître. Pour le connaître, il faut une révélation. C'est vrai qu'Einstein était croyant. Il y a des gens qui croient que les hommes de science ne sont pas croyants. Il est vrai qu'on ne parle que de cela, mais il y en a qui sont croyants. Et voyez-vous, c'est vrai que Jésus-Christ, il a montré qui est Dieu. Il a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc c'est quelque chose de matériel, c'est pas du vague. Le christianisme, c'est pas quelque chose de vague, une vague idée. C'est Jésus, c'est une personne. Et vous êtes ou bien pour lui, ou bien contre lui. Parce que si Jésus a dit la vérité, et il a dit « Je suis la vérité », et que vous n'êtes pas d'accord, vous êtes dans l'erreur. Et il a dit « Celui qui n'est pas pour moi est contre moi ». C'est pour ça que c'est très important. Ce soir, il n'est pas question de religion. Il n'est pas question de savoir si vous êtes d'une religion pour une autre. Il est question de savoir ce que vous pensez de Jésus. Toute votre destinée éternelle se joue là. Si Jésus, je dis si pour vous, pour moi il n'y a pas de problème, si Jésus n'était pas un usurpateur, un illuminé, un fou ou un malade, mais s'il était bien celui qu'il disait être, alors à ce moment-là, il y va de votre éternité, soit de l'accepter, soit de le refuser. Et lui-même de sa propre bouche a parlé d'un châtiment éternel pour les uns et d'un bonheur éternel pour les autres. C'est pas moi qui l'invente. Donc c'est très important. Ici, nous avons donc un endroit, Jésus était dans une maison, il enseignait, et vous savez, quand il enseignait, il y avait beaucoup de gens qui venaient, parce que le Seigneur Jésus guérissait les malades. Et les gens sont toujours attirés par le surnaturel. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui se tournent vers la magie, vers le spiritisme aujourd'hui, parce que les religions, les grandes religions, ne donnent plus le surnaturel chrétien. Alors, les gens ne sachant pas qu'il y a autre chose, tombent dans les sectes, ou alors dans les sectes aussi spirites ou autres. Mais nous savons que Jésus est toujours le même, et qu'il donne à notre cœur le surnaturel dont il a besoin et qu'il nous remplit de son bonheur et qu'aujourd'hui encore il guérit les malades. Je ne vous connais pas, mais je suis sûr qu'ici, il y a des gens qui ont été guéris par le Seigneur Jésus. Je ne parle pas d'une guérison naturelle, mais d'une guérison surnaturelle. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous qui avez été guéri, pour témoigner pour ceux qui peut-être viennent pour la première fois, voulez-vous, s'il vous plaît, vous lever à votre place? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Oui, Jésus guérit encore aujourd'hui. Ici, à Valence. À Paris, à Bordeaux, à Jérusalem, à Rome, n'importe où. Mais vous n'avez pas besoin d'aller dans un endroit plus que dans un autre, parce qu'il guérit partout. Et il n'a pas besoin de superstition, d'une grotte ou d'eau ou quelque chose de spécial. Il guérit par son esprit, non pas par la matière. C'est la différence entre le spiritisme, la magie et la foi chrétienne qui n'a rien à voir avec les superstitions et avec les choses matérielles, vous savez, qu'on met sur la poitrine ou dans le porte-monnaie pour se protéger, les porte-bonheur et les patati et les patatas. On n'a pas besoin de tout ça quand on est chrétien, parce qu'on met sa confiance dans le Saint-Esprit. Donc Jésus était là et il y avait beaucoup de gens qui étaient venus pour l'écouter. Puis voilà que tout à coup, quatre hommes arrivent avec un malade incurable, un homme paralysé. La science ne pouvait rien pour lui. Et ces hommes avaient la foi. Ils avaient compris que Jésus avait le pouvoir sur toute maladie et que Jésus avait le pouvoir de guérir leur ami. Et ils l'ont amené. Quelle foi ! Ils voulaient mettre leur ami au pied de Jésus, sous le regard de Jésus. Et voyez-vous, ces réunions que nous faisons et que vous allez faire pendant les rencontres de mai, ont ce but. Nous n'avons pas d'autre but. Car si nous réussissons, par la grâce de Dieu, avec nos prières et avec nos paroles, à vous amener au pied de Jésus, à un contact direct avec Jésus, nous avons gagné. Car celui qui met sa foi dans le Christ et qui a un contact direct avec lui est obligé d'être l'objet d'un miracle. Il se passe quelque chose dans votre vie si vous êtes en contact avec Jésus. Et Jésus est ici ce soir. Il l'a promis. Il a dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est ici ce soir et vous pouvez, avec votre foi, aller à ses pieds. Et nous voulons vous aider pour cela. Nous sommes comme ces quatre amis qui veulent vous amener au pied de Jésus. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils arrivent avec leurs malades, et puis ils ouvrent la porte. Mais qu'est-ce qu'ils voient devant la porte? Des gens qui sont là, tassés les uns contre les autres. Impossible de passer. Vous savez, c'est pas par hasard que cette image nous est donnée. La foule est souvent un obstacle entre vous et le Seigneur. Tout ce que la foule croit, tout ce que la foule dit, influence beaucoup de gens. Et nous avons vu bien des gens qui n'ont pas été sauvés par le Seigneur parce qu'ils ont eu peur du qu'en dira-t-on. Ainsi, il y a entre eux et Jésus la foule. Et quand ils tapent sur l'épaule, « Pardon, on voudrait passer. » « Vous ne pouvez pas, impossible, c'est plein. » « Taisez-vous. » « Il est malade, il est paralysé. » C'est quand même malheureux, quand même formidable, c'est une taisez. Mais vous savez que des fois, même les croyants sont des fois un obstacle. Et il y a des gens qui ont trouvé des obstacles devant leurs yeux par des croyants qui n'ont pas rempli leur rôle de croyants et de chrétiens. Combien de fois j'ai entendu ces paroles? Il y a trop d'hypocrites dans les églises. Je connais des hypocrites. Je connais des gens qui prétendent être chrétiens, qui voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils disent. Ben, puisque c'est comme ça, je ne croirai plus. Mais écoutez, mes amis, on ne juge pas d'une cause d'après ceux qui la trahissent. Sinon, on est pire que les hypocrites qui vont dans les églises. Dire à Jésus, « Jésus, je crois plus en toi, je t'aime pas,
parce que Judas t'a trahi. C'est débile.
Quand je suis arrivé pour la première fois dans une église évangélique, j'étais tout nouveau converti. Je venais de lire le Nouveau Testament. Et j'ai vu qu'il y avait des imperfections chez ces pauvres chrétiens. Il y avait même des disputes entre eux. Une fois, il y en a deux qui se sont disputés, le mari et la femme. Je ne sais pas si ça vous arrive, à Valence, de vous disputer, oui, hein. Mais pas devant tout le monde. Eux, ils l'ont fait devant tout le monde. Et moi, j'étais là. Et vous savez ce que j'ai pensé, ce que j'ai dit? J'ai dit, Seigneur, ces gens-là, ils ont besoin que je les aide. Ils ne seraient pas mieux à l'idée d'abandonner le Christ parce que des chrétiens étaient faibles. Au contraire, j'aurais dit, si eux font pas bien leur travail, moi je veux faire mieux qu'eux. Mais si vous dites que parce que des chrétiens ne sont pas comme ils doivent être, que c'est pour ça que vous quittez le Christ, vous êtes un hypocrite encore plus grand que les autres. Il y aura toujours des obstacles. Ils ont trouvé cet obstacle, la foule. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ont dit, ben si c'est ça les chrétiens, c'est ça, eh ben les disciples du Christ, non, viens ici, il y avait cet homme-là, il est malade, c'est notre copain. Non, viens ici, on est gentil et tout. On fait des kilomètres à pied, nous en arrivons ici, on nous l'a pas, il ne serait pas rentré. Mais si c'est ça votre Dieu, moi j'y crois plus. Allez, viens, on s'en va, allez, viens, allez, porte-les, allez, on s'en va. Non, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y en a un qui a dit, vous savez ce qu'on va faire? Non. On va monter sur le toit, vous voyez alors. On va faire un trou dans le toit, parce que je connais là, le toit il est pas solide, tu sais, on arrivera à le percer. On fait un trou dans le toit et puis on le descend. Tu rigoles, tu vas pas faire ça, pourquoi pas? Non, tu vas pas dire, dans la réunion le Seigneur il est là, tu vas faire un trou dans le toit, non mais ça va pas. Oh, je vais pas. Comment tu vas pas? Et pourquoi on le ferait pas? Ils veulent pas nous laisser passer. Et si jamais on n'arrive pas à le mettre devant le Seigneur, ben il sera pas guéri. Tandis que je suis sûr qu'il... Tu crois pas que le Seigneur va dire quelque chose? Le Seigneur dire quelque chose? Je suis sûr que non. Au contraire, ça lui plaira. Parce qu'il verra qu'on s'occupe pas des gens. Et que nous, on a confiance en lui. Tu crois? Ouais. On y va? Allez, on y va. Allez. Et ils ont monté sur le toit. Ils ont commencé à ôter, n'est-ce pas, tout cet espace de plâtre, ce mélange qui était là. Imaginez un petit peu le spectacle. La poussière qui a commencé à tomber, et les gens qui ont commencé à regarder en rien, disent, qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, quelle honte! Il n'y a plus de respect de la religion. Oh, c'est quand même malheureux. Décidément, vous ne vous rendez pas compte ce qu'il fait. Mais c'est honteux! Et notre pauvre là-bas. Regardez les prêtres de Jérusalem qui sont avec leur barbe, ils ont la barbe toute pleine de poussière. C'est pas possible. Et Jésus. Et voilà que le Seigneur s'arrête de parler, et puis il regarde. Et on voit un trou qui se fait. Et la poussière qui tombe. Et le Seigneur n'a plus prêché, j'en suis persuadé, c'est plus à peine, hein, parce que tout le monde il était troublé. Et d'un seul coup, on a vu deux jambes qui sont descendues. Et après, ils ont vu un dos, des bras, et une tête, et quatre cordes, et ils ont descendu cet homme devant lui. Merci Seigneur de ce que tu aies voulu que ce passage soit dans la Bible. La Bible est un livre extraordinaire. Ah, il y a des gens qui vont au cinéma, nous on n'a pas besoin de cinéma nous. Quand on lit la parole de Dieu, on a la vérité, on n'a pas besoin de rêve. Alléluia! Oh mes amis, et il y a là un enseignement pour nous ce soir. Et voilà cet homme qui se tient tout à coup devant le Christ. Il est là, sur son lit, devant le Seigneur. Il n'avait qu'un désir jusque-là. Il ne pensait qu'à une chose. Je veux être guéri. Je veux être guéri. Il faut que je sois guéri. Et puis là, tout à coup, il se trouve devant le Seigneur. Il se sent pécheur. Il se sent sale. Vous savez, quand on est dans la nuit, on ne s'aperçoit pas des tâches qu'on peut avoir. Je connais l'histoire qui est arrivée, confiance en Dieu, mais mettait aussi sa confiance dans de l'eau bénite. Hein? Alors elle avait de l'eau, puis elle croyait que l'eau, elle allait protéger les gens si elle leur jetait dessus. Et un soir, il y avait tout était éteint, il y avait les bombardements, elle trouvait, il n'y avait plus de lumière, elle a pris la bouteille,
Elle a arrosé ses enfants, a arrosé tout le monde,
mais elle savait pas que c'était une bouteille d'encre. Alors ils ont rien vu, mais quand la lumière est venue, ils étaient tout barbouillés. Et il est vrai que quand la lumière vient, on s'aperçoit qu'on est sale. Si vous vivez avec des cochons, avec des porcs, même si vous sentez pas très bon, vous ne vous n'apercevrez pas. Mais si vous allez quelque part où c'est tout propre, où c'est tout impeccable, tout à coup vous allez vous apercevoir que vous avez des taches. Cet homme, quand il s'est trouvé devant le Christ, il s'est senti pécheur. Et toute sa foi, sa confiance pour la guérison a disparu. Il a été paniqué. Il a dit, qu'est-ce que je fais ici? Et quand il a regardé les yeux de Jésus et que le Seigneur a sondé par son regard, son propre regard, oh, il a senti qu'on pouvait rien lui cacher. Il savait tout. Il avait beau être paralytique, il était un pécheur. Car les péchés, mes amis, ça se passe tout d'abord dans l'esprit avant de se passer dans le corps. Et c'est par l'esprit que le diable nous souille. Alors il s'est trouvé là devant le Seigneur. Mais je bénis le Seigneur. Quelle gentillesse, quelle bonté, quel amour. Ce soir, Jésus t'aime comme il a aimé cet homme. Et il a regardé cet homme avec miséricorde. Il lui a dit, mon enfant. C'était un homme. Je sais pas quel âge il pouvait avoir, mais il avait plus de 40 ans en tout cas. Certainement. Mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. Ah! Vous savez, Dieu sait, il connaît nos problèmes. Combien de fois j'ai vu que Dieu parle d'une manière précise. Je pourrais vous citer des cas où je suis allé dans des réunions avec un problème ou d'autres personnes, et même ici je suis sûr qu'il y en a, qui sont venus dans les réunions de Pentecôte, je précise, où il y a des dons spirituels. Et tout à coup, le Seigneur a parlé. Au travers d'une prophétie, au travers d'une parole qui venait de lui. Et puis, il a redit les mots que vous avez dit chez vous dans le secret. Il y a des cas précis où les gens ne pouvaient pas savoir ce qui prophétisait. On dit, je me souviens du cas d'un homme qu'on m'a raconté, il était en train de lire dans l'Apocalypse au chapitre 3. Il attendait sa femme, il ne voulait pas croire en Dieu. Et il s'était mis dans le fond de la salle et il lisait dans l'Apocalypse chapitre 3 comme ça par curiosité de la Bible. Et tout à coup il y a une prophétie. Toi qui es entré dans ma maison, toi l'étranger qui lis le chapitre 3 de l'Apocalypse. Je me souviens d'un marin, c'était un gros dur. Quand nous sommes allés pour la première fois, il s'était converti dans son hamac. En faisant une simple prière à Dieu. Seigneur, si tu existes et que tu m'aimes, si c'est vrai, sauve-moi. Et il a senti la puissance de Dieu venir sur lui. Il a été converti comme ça. La première fois qu'il est entré dans l'église, Dieu lui a parlé par prophétie. Il tremblait sur sa chaise. Pourtant, c'était un gros dur. Vous savez qu'il battait sa femme. C'était un homme, on l'appelait Staline. C'était une brute. Et le gars, il tremblait sur sa chaise. Moi, j'avais peur. J'avais pas l'habitude. Je me dis tout à l'heure, qu'est-ce qui va lui arriver? Je le voyais qui pleurait comme un gamin, qui frissonnait, qui tremblait. Mes amis, c'est formidable quand Dieu vous parle. Jésus a regardé un jour un homme. Il lui a dit, voilà un homme, un Israélite, dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Alors il lui a dit, mais d'où me connais-tu, maître? Il a dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Rabbi, tu es le Messie. Ça voulait dire quelque chose pour lui. Et vous savez, cet homme, son problème, c'était pas sa paralysie. Son problème premier, c'était pas sa maladie. Son problème premier, c'était la question de ses péchés. C'est ça qui lui empoisonnait la vie. Il y a bien des gens qui sont en bonne santé qui se suicident. parce qu'ils ont un problème plus grand que la maladie. Et quand on a un problème de conscience, mes amis, c'est le pire des problèmes qu'on peut avoir. Et le Seigneur commence toujours par guérir l'âme avant le corps. Et c'est très rare qu'il guérisse le corps avant l'âme. Il le fait. Je ne voudrais pas exagérer en disant toujours, mais il arrive que le Seigneur guérisse des malades avant de les sauver, pour qu'ensuite ils viennent à lui. Mais la normale, c'est qu'on nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et l'extérieur deviendra net. Ça, c'est la normale. L'exceptionnel, c'est quand le Seigneur, dans sa volonté souveraine, guérit d'abord le corps. Ça, c'est son affaire. Pour les 10 lépreux, par exemple, il les a guéris, et il n'y en a qu'un qui a été sauvé, parce qu'il est revenu pour dire merci. Vous voyez, il y a des exceptions. Mais Dieu veut que vous soyez sauvés. Le but de Dieu, ce n'est pas que vous soyez heureux sur la terre. Bien sûr, Dieu veut que vous soyez heureux sur la terre. Mais Dieu sait très bien, et nous aussi, que nous ne pourrons jamais avoir le bonheur parfait ici-bas. Les chrétiens vieillissent comme les autres. Les chrétiens meurent comme les autres. Et tant que nous serons sur cette terre, nous aurons des souffrances et des problèmes comme les autres. Quand il pleut dehors, il pleut sur les méchants, il pleut aussi sur les bons. Et quand il fait froid pour les autres, il fait froid aussi pour vous. Et quand il y a le chômage pour les uns, il y a le chômage pour les autres. Nous participons tous à cette vie terrestre. Mais le but de Dieu, quand il a donné son Fils sur la croix, c'était plus que ça. C'était pour la vie éternelle. Alors le Seigneur a regardé cet homme et lui a dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Réaction, aussitôt. Les prêtres se sont regardés. Parce qu'attention, ces hommes-là, ces rabbins, c'était des hommes qui connaissaient la Bible. Il fallait pas leur raconter des histoires. Et ils savaient qu'un homme ne peut pas pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu qui peut les pardonner. Ça, ils le savaient. Et ils avaient raison. Seulement, ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que Jésus est Dieu. Que son saint nom soit béni. Jésus n'est pas l'archange Michel, comme certains voudraient nous le faire croire. Il n'est pas une créature. Il n'est pas un fils de Dieu. Il est le fils unique de Dieu. Il est le rayon du soleil. Essayez de séparer le rayon du soleil. Impossible. Quand vous avez le rayon, vous avez le soleil. Sans le rayon, vous n'avez pas le soleil. Jésus est le Fils de Dieu. Et il est venu sur la terre. Pourtant, Dieu était quand même au ciel. Ah, quel mystère! Que c'est grand! Mais il est vrai que Jésus est Dieu. Et il peut pardonner les péchés. Et il a su aussitôt que ces hommes pensaient ça. Ils se sont regardés. Pourquoi pensez-vous comme ça? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Vous ne croyez pas en moi. Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire à ce paralytique tes péchés sont pardonnés ou de lui dire lève-toi et marche? C'est facile de dire tes péchés sont pardonnés, je te donne l'absolution, ça se voit pas. N'importe qui peut dire ça. Mais lui dire lève-toi et marche, ça se voit. Or, le plus difficile, c'est de pardonner les péchés. Si le Fils de l'homme peut pardonner les péchés, il peut faire le plus facile, guérir le corps. Or, pour vous prouver que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et instantanément, cet homme a reçu la puissance de vie en lui. Et il s'est levé. Il a été guéri. Et chose étonnante, c'est qu'avec son lit, il a pu sortir. Il n'a pas pu rentrer. Il n'y avait pas de place pour rentrer. Mais quand il était guéri, il a pu sortir. Pas par le toit, mais par la porte. Ah, vous voyez qu'il aurait très bien pu entrer s'il avait eu de la bonne volonté. Mais souvent, les gens sont égoïstes, même quand ils sont croyants.